L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain de beurre, de petits oignons. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange et certain que la vérité peut s'exprimer librement, pleinement, uniquement par la fiction ? Comme un frisson lorsqu'on comprend que le réel est mouvant, qu'il faut un roman pour le rendre tangible. Car, une fois écrit, les événements les plus incroyables sont enfin figés. On peut alors, à loisir, s'en saisir et, possiblement, aujourd'hui, les comprendre.
Air comme...
Ah, où recherche un rat
qui a rouge le raisin.
Ah, où recherche un rat
qui a rouge le raisin.
Mais le rami est rongeur en cogné dans le foin. Rongeur reste à la grange, le ratier n'est pas loin.
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 Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez L'Épluche Livre et nous recevons aujourd'hui Nelly Allard. Madame Allard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation.
Ben, merci de me recevoir.
Vous êtes romancière et votre dernier roman paru en janvier dernier aux éditions Gallimard s'intitule La Manif. Mm-hmm. De quoi est-il question dans ce texte ?
Alors, c'est toujours difficile de parler de ce roman sans le spoiler un peu la fin, parce que c'est vrai que... Mais disons que c'est l'histoire d'une famille qui, d'un coup, est plongée dans le chaos.
Alors, quel événement, en fait, finalement ? Il va y avoir, donc, on disait une famille, donc nous allons avoir des personnages. Nous allons avoir Agnès et Gilles, les parents, voilà, des enfants, trois.
Donc, tout à fait.
Un va se retrouver, malgré lui, au cœur d'un grave accident, du moins d'un événement, de ce genre d'événement dont on a besoin d'éprouver la tangibilité, justement, pardon, excusez-moi, mais d'éprouver la solidité, la justesse. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Donc on va parler de Romain,
voilà.
Si je ne me trompe pas.
Romain, qui est le fils d'Agnès et Gilles, qui sont dans leur maison au bord de la mer et à qui on annonce, Romain qui a 28 ans à l'époque, et on annonce aux parents, ils reçoivent un coup de fil de leur fille aînée, qui leur annonce que leur fils est à l'hôpital dans un état très grave et qu'il a eu le crâne fracassé au cours d'une manifestation contre la loi travail. Ça se passe en 2016. Bon, il faut préciser à ce stade que c'est un roman, mais c'est très, très inspiré d'une histoire réelle qui s'est vraiment passée. Et justement, par rapport à votre introduction, c'était ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est que quand le père de Romain me l'a raconté, ça semblait tellement, tellement fou, ça semblait tellement incroyable qu'on avait de la peine à croire que c'était arrivé. Et donc, j'ai voulu écrire ce livre pour raconter réellement ce qui s'était passé. Mais je ne voulais pas le faire, je ne suis pas journaliste, je suis romancière. Et puis en plus, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était justement que ça aurait pu arriver à n'importe qui, en fait. Et que ça aurait pu arriver à mes fils, à l'un de mes fils. Voilà, donc j'écris ça sous forme d'un roman, un roman choral, puisqu'on suit donc non seulement les parents de Romain, mais également ses deux sœurs, dont l'une, l'aînée, est médecin et chirurgienne. La plus jeune est intermittente du spectacle et est beaucoup plus révoltée. C'est une famille tout à fait ordinaire, respectueuse des institutions, de la justice, de la police, et qui ne comprend pas ce qui leur arrive quand on leur annonce que leur fils est un black bloc qui s'est fait...
Ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils connaissent.
Alors que Romain n'a jamais manifesté de sa vie, et donc voilà. Et qui bascule, j'ai oublié de parler de la grand-mère, qui est un personnage aussi important, parce que c'est une ancienne 68arde, mais c'est un personnage très poétique... Qui est très proche de son petit-fils et qui vit aussi cet événement de manière qu'on ne sait pas comment nommer, parce qu'il apparaît très vite que ce n'est pas un accident. Très vite, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux et dont ils ont connaissance et qui montrent que Romain a été touché par une grenade de désencerclement jetée par un policier.
D'accord.
Et... ça fait partie des choses de la famille ne sait plus comment le nommer. C'est pas un accident, c'est pas un attentat, c'est pas un meurtre. C'est
l'irréel qui arrive. Voilà, c'est de l'incroyable, l'indicible. Hein. D'ailleurs, incroyable, c'est aussi ce dont vous parlez les parents, Gilles et Agnès, donc parce que ils vont avoir toujours ce retour de leurs proches, des personnes à qui ils vont raconter les faits, comme quoi c'est incroyable.
Voilà, parce que ce qui est incroyable, c'est pas forcément qu'une telle chose puisse arriver, qu'un passant, puisqu'en fait Romain n'était même pas manifestant, il attendait son tramway après avoir filmé de loin des images de la manifestation. Ce qui est incroyable, c'est pas tant que ça arrive, mais c'est le déni auquel ils font face, puisque à l'hôpital, le préfet de police arrive et leur explique que leur fils a reçu une boule de pétanque jetée par un manifestant, alors même que les vidéos commencent déjà à circuler, qui montrent clairement le policier jeter la grenade, alors même que... Et pendant 2 ans, la police s'obstine à dire qu'une grenade ne peut pas, une grenade de désencerclement ne peut pas causer ce genre de blessure, sans fournir aucune explication alternative, puisqu'on voit le policier lancer la grenade. La scène a été filmée sous tous les angles, de haut, de bas, de gauche, de droite. Donc voilà, c'est plus ce que j'ai voulu raconter, c'est juste la sidération, l'incompréhension, et puis les réactions différentes des différents membres de la famille, jusqu'au réveil de Romain, dont pendant toute la première moitié du livre, le sujet principal, c'est l'angoisse. Romain va-t-il sortir du coma, puisqu'on le présente comme étant dans un état extrêmement critique, avec très peu de chances de s'en sortir autrement que comme un légume. Donc voilà, d'abord le sentiment principal de la famille, c'est évidemment l'angoisse, mais qui est aggravé par l'incompréhension, par la manière dont les médecins, le personnel soignant parlent de Romain, qu'on leur a amené comme s'il était un casseur, en fait un voyou. Donc tout le monde
décrit quelqu'un qui n'existe pas pour eux,
qui n'est pas leur fils. Quoi. Donc voilà, c'est tout cette légère. Alors chacun réagissant de manière différente, les parents faisant confiance à la justice pour établir les faits, la plus jeune sœur étant davantage dans la révolte, la petite amie qui est russe de Romain, qui elle fait des comparaisons avec la dictature de Poutine. Voilà. Donc voilà, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment ce microcosme familial et la manière dont chacun, y compris Romain, donc quand il finit par sortir du coma, appréhende cet événement selon laquelle ça les affecte, chacun différemment. Et en ce qui concerne Romain, c'est l'impossible reconstruction, puisque il y a une plainte, la famille porte plainte et Romain s'y joint. Mais l'instruction dure des années et pour finir sans résolution, sans qu'il soit jamais reconnu comme une victime.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est un roman qui pose les faits. Moi, c'est ce qui entre, alors vous allez dire si vous êtes d'accord avec mon point de vue, mais c'est ce qui entre pour moi dans ce que je présente pour la littérature du réel. On passe par de la fiction pour saisir au mieux la vérité, ou du moins la multiplicité des points de vue qui constitue, qui compose cette vérité. Au-delà du débat, voilà, il y a eu un drame, il y a eu certainement une faute non reconnue. Quelle est votre posture en tant qu'autrice ?
Moi, en tant qu'autrice, je donne la parole. En fait, le principal problème de cette histoire, c'est pas tant la... C'est qu'on n'ait jamais donné la parole à Romain, justement. On sait à quel point, pour les victimes, c'est important que les faits soient reconnus, de se trouver éventuellement confronté à leur agresseur, même si là, ce n'est pas vraiment le terme. Le policier n'est pas un agresseur, c'est un agresseur involontaire. Mais c'est de rendre compte, justement, et je pense que seule la littérature peut faire ça, parce que... un récit journalistique n'aurait pas... Moi, ce que je voulais, c'est faire sentir de l'intérieur ce qui se passait, en fait. Les répercussions que ça a, parce que quand c'est une perte de confiance, en fait. C'est une perte de confiance dans la... L'un des personnages, la sœur aînée, Clotilde, qui est médecin, dit... qui est en plus médecin spécialisé dans les grossesses à risque, elle est gynécologue. Et donc, elle a l'habitude de devoir annoncer des diagnostics vraiment difficiles. Et elle dit, une erreur médicale, même, ça arrive. C'est insupportable pour les familles, mais ça arrive. Mais l'essentiel, c'est d'expliquer comment ça a pu avoir lieu. C'est de reconnaître, surtout, l'erreur. Mmh. Et ce qui est le plus insupportable dans cette histoire, c'est justement que... Voilà, que tous ces personnages n'aient jamais entendu, donc le roman essaie de leur donner une voix. Et seule la fiction, je pense, permet comme ça d'être au plus près des personnages et de susciter une réelle empathie.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va passer à notre petite pause musicale. Je vous laisse, chers auditeurs, écouter le titre choisi par notre invité.
Bye.
Vous écoutez L'Épluche Livre, nous sommes en compagnie de Nelly Allard, autrice du titre La Manif. Madame Allard, c'est vous qui avez choisi donc le morceau que nous venons d'écouter. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en deux mots ?
Oui, c'est une chanson de Juliette Armanet que j'aime beaucoup, qui s'appelle À la folie. Ça n'a vraiment mais aucun rapport avec le livre, mais comme on m'a demandé de choisir une chanson au dernier moment, je n'ai pas eu le temps d'en trouver une qui ait plus de rapport. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Juliette Armanet. L'important. Je suis très, très chanson française de toute manière. Et voilà.
L'important est que ça ait rapport avec vous. Est-ce que, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de votre ouvrage, s'il vous plaît ?
Oui, avec plaisir. Donc ça se passe, c'est vers dans la première partie du livre, ça se passe. Donc Agnès et Gilles ont passé la nuit à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas pu prendre un dernier avion pour rentrer à Paris après le coup de fil de leur fille. Donc c'est le premier matin où ils arrivent à l'hôpital sans avoir aucune nouvelle de leur fils depuis la nuit précédente. Et parce que leur fille leur a annoncé qu'il pouvait pas, il n'y avait pas de visite avant 11h du matin. Et donc ils arrivent au service de réanimation de l'hôpital. À l'entrée du bunker, après avoir appuyé plusieurs fois sur la sonnette prévue à cet usage, Clotilde parlementait à présent avec la personne venue leur ouvrir, qui revêche leur expliquait que non, il n'était pas possible d'avoir des nouvelles de Romain, que les visites n'étaient autorisées que l'après-midi, et tandis que Gilles se mordait les poings pour se retenir de l'assommer, Clotilde elle-même finissait par s'énerver, disant « Écoutez, ce n'est pas possible, il a été opéré cette nuit, mes parents ne l'ont pas vu, on ne peut pas avoir des nouvelles plus précises ». Elle haussait le ton et sa voix montait dans les aigus. « Enfin, je suis médecin moi-même, chirurgien, on ne traite pas les familles comme ça ». Jusqu'à ce qu'enfin, de guerre lasse, un médecin, qui se présenta comme le docteur Troidec, un breton donc, accepte de les recevoir et les fasse entrer dans la même salle que la veille. Des familles, justement. Aussi puissamment éclairées de néons et aussi sinistres qu'en pleine nuit, puisque n'y pénétrait pas la lumière du jour. Et d'un ton à la fois embarrassé et mécontent, d'un ton de reproche, leur disent en préambule, il tenait à le préciser, que « Nous, ici, on est là pour soigner tout le monde ». On va soigner votre fils exactement comme n'importe qui. La phrase est tellement bizarre et le docteur Troidec semble tellement gêné en la prononçant que tous se regardent sans comprendre. Il n'a pas dit « on va soigner votre fils exactement comme n'importe qui, même si ». Mais tous l'ont entendu, ce « même si », aussi clairement que s'il avait été prononcé. Et tous se demandent « même si quoi ». Supposant que ce qui vient derrière ne peut être que péjoratif, sauf Clotilde, qui pense que c'est une référence au mini-exclandre qu'elle vient de faire, qui croit comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont une famille de médecins qu'ils doivent s'attendre à un quelconque traitement de faveur. Tandis qu'Agnès, Judith, Gilles et même Françoise, et l'avenir leur donnera raison, comprennent sans doute possible que le docteur Troidec tient Romain pour un voyou, un casseur de flics, un de ces black blocs qu'on ne cesse de voir à la télé. En gros, s'il est ici, il n'a que ce qu'il mérite. Mais ne vous inquiétez pas, on va le soigner quand même.
C'est un passage très, très fort.
C'est le premier passage où ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette histoire.
Oui, il y a une incohérence et c'est là que la réalité dérape. Quoi. On perd pied complètement avec la famille. Enfin, en tant que lectrice, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire « Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, » absolument.
Vous dites souvent que pour écrire, il faut avoir une histoire à raconter. C'est votre leitmotiv.
Ouais. Ben, ça me frappe toujours. Il y a des jeunes gens qui parfois vous demandent « Ah, j'ai envie de devenir écrivain. Qu'est-ce qu'il faut pour écrire ?» Et ça m'a toujours semblé très bizarre parce que je trouve avoir envie d'écrire quand on n'a rien à raconter, c'est... Enfin, moi, c'est pas du tout mon fonctionnement, quoi. J'ai jamais réussi à tenir un journal. Ça m'ennuie. Donc j'ai vraiment eu l'impulsion d'écrire uniquement quand je me dis, j'ai envie de partager cette histoire-là. J'ai envie d'être lue. J'écris pas pour moi. En fait, j'écris vraiment pour que l'histoire soit lue, pour partager cette histoire avec d'autres gens. Je pense que la lecture est vraiment ce qui crée un lien. Enfin, moi, mes souvenirs de lectrice, j'avais l'impression vraiment d'être en conversation avec un auteur et que... Voilà, donc j'ai vraiment toujours envie de raconter une histoire. Et chacun de mes livres, de mes trois précédents romans, ils sont tous très différents les uns des autres, les trois, je crois. Mais à chaque fois, le moteur pour écrire, c'était de me dire « cette histoire vaut quand même la peine d'être racontée ». Et c'est ce qui s'est passé donc, pour la manif, puisqu'il se trouve que le père de Romain, je le connaissais depuis longtemps, on n'était pas proches et je n'ai pas... connu cette histoire quand, enfin, au moment en 2016 quand c'est ce qui est arrivé à Romain et qu'on ne sait pas comment nommer s'est passé, donc quand cette chose est arrivée, mais il me l'a raconté bien des années plus tard. Et il était tellement encore bouleversé parce que c'est quelque chose qui a modifié profondément le cours de leur vie à tous, tellement en colère dans son cas et tellement atteint par cette histoire, que quand il me l'a raconté, d'abord ma première réaction a été de dire c'est fou, c'est pas possible que dans un pays comme la France une telle chose arrive et qu'il n'y ait pas de procès, que ce soit enterré comme ça. Et ma réaction immédiate a été de dire dans ces cas-là, quand la justice n'est pas rendue, quand la parole n'est pas donnée, il reste qu'une solution, c'est d'écrire un livre. Et c'était au moment où sortait Le Consentement, La Familia Grande, tous ces livres qui ont en fait fait bouger les lignes, alors même que la justice soit pas, parce que ça, c'était, les faits s'étaient déroulés il y a trop longtemps avant, soit parce qu'ils n'avaient juste pas été dits. Voilà, ça a été ma... Et là, je me suis dit, pour le coup, il faut raconter cette histoire.
Donc, vous avez parlé de vos trois précédents livres. Si je ne me trompe pas, donc, le premier, c'est Le Crieur de Nuit.
Le Crieur de Nuit, oui.
Donc, Le Crieur de Nuit, quel a été le prétexte, justement, comment cette histoire est arrivée à vous?
Alors ça, Le Crieur de Nuit, c'est facile parce que c'est très, très autobiographique. Hein. C'est une histoire de famille, la mort d'un père, et ça se passe en Bretagne. Et j'ai passé mon enfance en Bretagne et c'est quelque chose qui m'a été très inspiré par mon propre père. C'est entremêlé de récits de la légende de la mort chez les Bretons armoricains. Qui est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente. Et c'est ce que j'appelle mon conte breton. Et en fait, c'est un livre assez court, c'est affreux à dire. En fait, mes deux premiers livres, je les ai écrits pour écrire le troisième. Parce que le troisième, c'est un livre bizarre, La vie que tu t'étais imaginée. C'est à la fois une autobiographie et une enquête historique sur la fille cachée de l'impératrice Sissi, qui est une enquête que j'ai menée à peu près depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, mon premier roman, je l'ai écrit de manière en me disant cette histoire, l'histoire de mon père, donc vaut la peine d'être racontée, mais aussi pour trouver un éditeur. D'accord. Parce que je ne me voyais pas me lancer, je savais que la vie que tu t'étais imaginée, ce serait un gros livre, c'était un sujet un peu... je savais qu'il me faudrait du temps pour l'écrire et je ne me voyais pas, parce qu'encore une fois, je n'écris pas pour moi, j'écris pour les autres, je ne me voyais pas me lancer dans un travail d'écriture pareil sans la certitude d'être publié au bout et donc d'avoir un éditeur. D'accord. Donc je me suis dit, pour trouver un éditeur, le mieux... quand on a eu un père comme le mien, c'est de raconter, d'écrire un court roman autobiographique. Et j'ai écrit Le Crieur de Nuit. Et puis, en fait, ça a marché puisqu'il a été pris par Gallimard tout de suite. Et que, il a eu le prix Roger Nimier et ça s'est plutôt bien passé. Donc
ça a été votre premier enfant littéraire.
Voilà.
Un garçon, une fille.
Oui, on me parlait de ça. Mais... celui-là, il est quand même plutôt masculin, je pense. En fait, je me rends compte de ça parce que quand je veux offrir un de mes livres ou quand on me demande un de mes livres, c'est vrai que... à une femme, j'offrirais plutôt soit Moment d'un couple, le deuxième qui est une histoire de couple. Donc il y a ce qui a plu aussi beaucoup, j'étais surprise au moment de la sortie, ça plaisait beaucoup aux hommes aussi. Donc, Moment d'un couple, je pourrais l'offrir à la fois à un homme et à une femme. À un homme, j'offrirais clairement plutôt Le Crieur de nuit, et à une femme, j'offrirais plutôt La vie que tu t'étais imaginée. Et La Manif aussi, je pense que c'est quand même plus un garçon, mais bon, il y a quand même beaucoup de personnages féminins aussi, je sais pas. La Manif et Moment d'un couple, ça se discute.
Donc, vous êtes maman d'ouvrages, mais pas que, puisque vous êtes arrivée à la littérature après donc une carrière en tant qu'actrice. Vous êtes toujours encore scénariste aussi.
Oui.
Est-ce que vous pouvez, pour terminer cette émission, nous parler un petit peu de votre parcours ?
Oui, donc j'ai commencé par être comédienne. Après avoir fait des études scientifiques, ce qui était déjà un drôle de virage, mais bon, dans ma Bretagne natale et dans le milieu dans lequel j'ai grandi, juste être comédienne, ou être artiste d'une manière générale, c'était pas du tout une option. Donc il a fallu que j'attende de venir à Paris pour faire une école d'ingénieur, pour suivre des cours du soir de théâtre au cours Florent. J'avais fait déjà le conservatoire de Brest, le conservatoire de Rennes, et pour la première fois rencontrer des gens qui imaginaient d'en faire un métier. Donc j'ai passé le concours du conservatoire, je l'ai eu, et à ce moment-là j'ai rangé mon diplôme d'ingénieur dans un tiroir, et donc je suis devenue comédienne. Et je faisais surtout du théâtre subventionné au départ, et donc j'ai été comédienne pendant une dizaine d'années. Et puis le théâtre subventionné, ben, ses créations à Strasbourg, tournées en France, reprises à Paris, puis après, si ça marche bien, tournées en Europe. Enfin, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis après, j'ai eu une petite fille, et puis après, j'ai eu des jumeaux, donc j'avais 3 enfants en bas âge. Et là, des vrais enfants, et là, c'est vraiment très compliqué. Enfin, j'ai des amis qui le font, mais franchement, être au théâtre, mener une vie de comédienne de théâtre avec 3 enfants en bas âge, faut vraiment renoncer à trop de choses, quoi. Donc j'ai pas voulu ça. J'ai continué à être comédienne pendant quelques temps, mais en faisant des rôles. J'ai dû jouer dans une 20aine de téléfilms après avoir fait 2 films aux États-Unis. Puis c'était pas suffisant pour moi et ça me satisfaisait pas. Et je me suis dit que j'allais commencer à écrire. Et j'ai très naturellement, en fait, les productions avec lesquelles je travaillais pour des séries télé, je leur ai dit, mais vous voulez pas... Voilà, j'ai commencé à travailler, à écrire des épisodes, à proposer des sujets pour les séries télévisées dans lesquelles je travaillais. Donc, je suis venue à l'écriture, en fait, par le scénario.
Très bien. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, vous vous saisissez d'histoires qui sont venues à vous
C'est-à-dire que justement, ce livre pour lequel je suis devenue romancière, donc La vie que tu t'étais imaginée, c'était impossible d'en faire un scénario. Ça se passe sur 3 époques, entre l'Empire d'Autriche, Hollywood des années 30, et aujourd'hui, ce serait un gros budget. et je n'avais pas envie de le ratatiner, parce que c'est quand même toujours plus sommaire, l'écriture d'un scénario. C'est vrai qu'on fait un long métrage à partir d'une nouvelle, un gros roman, il faut sacrifier trop de choses pour en faire un scénario. Donc je me suis dit que j'allais en faire un roman, et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture de roman.
Je vous remercie. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de votre 4e roman, La Manif, publié chez Gallimard. Donc on rappelle peut-être le mot de la fin sur ce roman, c'est pas un roman à charge, c'est pas un texte revendicatif, c'est un texte... Comment vous le définiriez en 2 mots pour terminer ?
C'est une histoire humaine, je pense, que j'ai essayé de raconter de manière la plus sensible possible. Effectivement, j'ai pas eu la sensation en l'écrivant d'écrire un manifeste ou un texte spécialement politique. Si c'est politique, c'est uniquement parce que ça témoigne d'une réalité qui est celle de notre époque.
Très bien, je vous remercie. Donc ce roman est bien sûr disponible à la librairie. Je remercie nos auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine.
L'Épluche Livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en 2.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.